du théâtre à tous les coins.
Musica.
Plus que jamais, contre les idéologies extrémistes et les fondamentalismes religieux, la culture, les arts, le théâtre, la musique, l'éducation des jeunes générations et la création artistique s'élèvent comme des ferments de lien social, remparts qui nous offrent des espaces de liberté, de rencontre, d'émotions partagées, où nous nourrissons nos esprits, adoucissons nos cœurs et bâtissons ensemble une culture de paix fondée sur des valeurs éthiques et spirituelles. Tel est le projet artistique du Théâtre Beaux-Arts Tabar de Montpellier, dirigé par Jean-Pierre Albe, qui est notre invité du jour. Jean-Pierre Albe, bonjour.
Bonjour.
Avec moi pour co-animer cette émission, Pierre Hesch.
Bonjour Cathy. Pierre. Et bonjour auditeur de Divergence FM.
Je vais vous laisser le soin de présenter donc notre invité, je le répète, Jean-Pierre Albe.
Oui, Jean-Pierre, bonjour.
Bonjour.
Je vais essayer en 90 secondes de faire le tour d'horizon de votre belle carrière, de votre longue carrière théâtrale. Donc vous êtes un enfant du pays, comme on dit.
Oui, je suis né tout près.
À Montpellier.
Oui.
C'est bien ça.
Oui.
À Montpellier. Votre papa était tonnelier.
Exact.
Mais très vite, c'est votre grand-mère et vos tantes qui vous ont un petit peu élevé, si je crois.
Oui.
Et très vite aussi, vous ont donné, ces femmes-là vous ont donné le goût du théâtre.
Des arts, de façon globale.
Des arts. D'accord. Et puis ensuite, eh bien, vous avez commencé à faire du théâtre. Et notamment, quand vous étiez jeune, vous étiez scout de France.
Oui, ce n'est pas, une bonne référence.
Non, mais...
Surtout pour faire du théâtre.
À l'occasion des veillées, vous en profitiez pour leur faire faire du théâtre.
Si on veut, oui.
Je crois.
Oui.
Et puis, à l'issue, ben, vous avez suivi des cours au Conservatoire de Montpellier.
Oui.
Et puis de là, on vous retrouve à Paris, mmh, en tant que professeur d'histoire dans la région parisienne.
Voilà.
À Paris, et vous en avez profité tout naturellement à suivre des cours, peut-être Florent, ou les cours Simon.
Ah non, aux cours Dulin et aux cours
Dulin,
Simon.
Simon. Et aussi tout naturellement, ben, vous avez créé pas mal de troupes de théâtre et des ateliers.
Oui, absolument, oui.
Au sein de votre établissement scolaire, avec l'accord de votre proviseur. Mmh. Et là, ça a été des années fastes, grandement fastes, puisque vous avez monté pas mal de pièces, de spectacles pour ces jeunes, avec ces jeunes. Et dans les années 80, je fais vraiment un tour d'horizon, vous avez été sollicité par le ministre de la Culture d'époque, il s'agissait Jacques Lang, pour créer une option au bac, cette option théâtre, avec deux ou trois de vos collègues de travail. Cela a duré peut-être 3 ou 4 ans.
Oh, davantage, ça a duré 5 à 6 ans.
Voilà. Et depuis... Et ça existe toujours, il y a l'option bac.
J'espère.
Au bac, il y a l'option théâtre. Oui, oui. Et c'était les sections quoi? Les sections A littéraires, non,
c'était
je suppose
des sections, c'était, des sections, c'était la section littéraire, effectivement, avec option. Comme il y avait une option musique, une option art plastique, etc., etc., il y avait aussi l'option théâtre.
On peut citer le nom de l'établissement?
C'est le lycée Jean-Baptiste Corot de Savigny-sur-Orge.
Ah, Savigny-sur-Orge, bon Dieu. Et donc, pendant 30 ans, vous avez exercé dans cet établissement?
Pendant 30 ans, j'ai exercé dans cet établissement, dans la mesure où il y avait tous les moyens propres à, disons, à exprimer le théâtre. C'est-à-dire une salle, c'est-à-dire un proviseur extraordinaire, mm-hmm, qui ne pensait qu'à ça. À mon avis, il était né théâtreux, mais il ne savait pas du tout comment faire. Il a eu une fille théâtreuse et comédienne, etc., etc., etc. Et puis, il m'a rencontré, et là, ce fut, non pas le coup de foudre, mais enfin, le coup de foudre théâtral, absolument. Ouais.
Et donc, à l'issue de ces 30 années de métier, vous êtes muté dans l'Aveyron?
Ah non, pas du tout.
Ah bon?
Ah, pas du tout, j'étais à la retraite.
Ah d'accord.
Je suis resté jusqu'à l'âge de ma retraite.
À Paris, et donc après, vous êtes descendu donc, dans le sud de la France?
Après, je suis descendu chez moi, à Montpellier, au 14 boulevard Louis Blanc, où j'étais né.
Et on vous a retrouvé en tant que, au titre de bouquiniste?
Ah oui, là j'ai ouvert une bouquinerie théâtrale, parce qu'effectivement le théâtre, j'avais toujours en moi. Et à Montpellier, il n'y avait pas de bouquinerie théâtrale, donc j'en ai ouvert une. Et puis j'y suis resté 14 ans, jusqu'en 2013 ou 2014. Et entre-temps, j'avais quand même des troupes, et une troupe en Aveyron, parce que ma femme est de l'Aveyron, et parce que là-bas, c'est un petit peu le désert théâtral total.
C'est
et
ça.
J'ai monté 2 ou 3 pièces là-bas, voilà.
Donc, en 2013?
Oh, avant. Je suis resté à ma librairie jusqu'en 2013.
D'accord. Et après, vous avez monté vous avez créé la troupe Le Veau des Champs.
Ah ben oui, alors là, il y a eu une espèce de...
On sait tout, là, Jean-Pierre ouais. Albin, là, là vous passez à la moulinette, là.
Il y a eu, disons, une espèce de no man's land, au cours duquel, effectivement, je n'ai plus rien fait, d'une certaine façon. Et puis un jour, tiens, je me suis dit, après tout, pourquoi pas? Pourquoi ne ferais-je pas une troupe dans la région, une troupe à Montpellier? J'avais comme ami à cette époque-là Annie Girard, qui elle aussi était comme moi, elle avait, disons, beaucoup circulé dans le monde théâtral. Elle avait créé, disons, certaines choses théâtrales au Vigan, en tant que qu'elle était prof au Vigan, et puis ensemble, on a monté le Veau des Champs. Voilà.
C'est ça. Qui tourne toujours?
Alors, qui tourne toujours, très bien.
Et en 2018, donc récemment, je dirais, vous avez pris la direction du théâtre privé?
Eh bien oui, j'ai pris la direction du théâtre Pierre Tabar, qu'on a rebaptisé Beaux-Arts Tabar, à la suite de Chawat, de Marc Chawat, qui d'ailleurs était mon locataire, puisque l'immeuble m'appartient, et qui était mon locataire, et qui avait décidé de, à tort d'ailleurs à mon avis, parce que ce qu'il faisait était bien, ou était pas mal, et disons, il a décidé de quitter le théâtre et de vendre, tout simplement, de vendre son, non, oui, enfin, son local, quoi.
D'accord.
Le fait du théâtre. Et je l'ai acheté.
Ah oui, mais vous disiez que le théâtre était à vous.
Oui, les murs sont à moi, mais la fonction théâtrale n'était pas à moi.
Donc, est-ce qu'on peut dire le fonds de commerce?
Le fonds de commerce.
Ouais,
voilà. C'est le fonds de commerce, ma chère madame. Parce qu'il faut...
il faut bien gagner sa vie dans le théâtre.
Il faut bien gagner sa vie, il faut tout payer, ne pas avoir d'ennui, parce que moi, je voulais surtout pas que cela porte sur mes enfants et sur l'avenir de mes enfants en fonction des choses que nous avons.
Oui, voilà, vous voulez dire que vous ne voulez pas leur laisser de dettes.
Exactement. Même, je leur laisse ce qu'ils ont à leur laisser sans dettes.
Donc, ce théâtre Beaux-Arts... Théâtre,
oui,
Tabar,
oui.
Se trouve naturellement au quartier des Beaux-Arts.
C'est à la limite entre Boutonnet et Beaux-Arts.
D'accord. Donc c'est rue Ferdinand Fabre.
Oui,
hein, c'est
en,
ça.
En face chez vous, rue
Ferdinand Fabre. À deux pas de la maison de Divergence FM.
Voilà, si vous voulez.
Et à deux pas de votre maison également.
Et à quelques mètres, oui. Maintenant j'habite la préfecture, hein, mais enfin bref.
Donc Jean-Pierre, je sais que vous écrivez pas mal de pièces, vous les réadaptez.
Non, j'ai écrit des pièces, mais c'est terminé.
Ah d'accord, mais ça a été fait, ça.
Oui, mais ça, j'écris des pièces, oui, effectivement. Ça m'a beaucoup amusé, parce que ce matin, j'ai reçu un futur acteur, d'ailleurs, de ma compagnie. C'est un homme qui a une petite cinquantaine d'années, et il m'a dit, je vous connais. Ah, ben, je dis, vous vous connaissez, c'est bien. Oui, parce que j'ai vu une de vos pièces, votre première pièce, je l'ai vue. C'était Mémé, il l'avait vue à Grabel.
Mémé.
Ça m'a beaucoup amusé. Je dis, ah bon?
Oui, bien sûr, j'imagine que quand on est amateur et qu'on veut faire du théâtre amateur, on se dirige vers un metteur en scène dont on a vu les travaux.
Vous savez, alors là, les amateurs, Pierre vous le dira, il y a de tout, quoi. Il y a toutes les formes, hein, d'accord? Maintenant, c'est vrai que je pense que lorsqu'on est amateur, lorsqu'on n'a pas pu ou voulu être professionnel, on se dirige vers la qualité. On cherche, à mon avis, la qualité d'abord. La qualité et la liberté. Car le fait d'être amateur aussi vous permet d'être libre davantage, parce que vous pouvez créer ce que vous voulez, parce que surtout si vous êtes entouré d'une équipe qui en veut, vous pouvez vraiment les monter très haut, les monter vers un certain professionnalisme, je mets ceci entre guillemets, nous sommes d'accord, parce que très souvent ils travaillent, etc., etc., autre que dans le théâtre. Mais c'est vrai qu'on est libre de tenter ce que l'on veut et d'adapter ce que l'on veut, ce qui n'est pas chez les professionnels. On voit des professionnels qui rament durant toute leur vie afin de jouer.
Oui, mais là vous parlez en tant que... Vous parlez des acteurs ou des metteurs en scène ou des deux?
Non, je parle des acteurs et des metteurs en scène. Pour les metteurs en scène, c'est un petit peu la même chose. Mais je parle surtout des comédiens. Les comédiens que l'on engage dans le théâtre amateur sont des gens vis-à-vis de qui il faut être exigeant et qui doivent être exigeants vis-à-vis d'eux-mêmes pour pouvoir progresser, entrer dans le jeu et se croire et jouer, disons, autant dans le métier que lorsqu'on est professionnel. C'est évident que je dis jouer, s'engager. C'est le fait de l'engagement. Je crois qu'il y a un engagement à être comédien, quel qu'on soit.
On sait que vous êtes un homme de théâtre, un amoureux de théâtre. Et je crois savoir aussi, parce qu'on me l'a répété, Jean-Pierre, que vous êtes donc déterminé, précis, exigeant dans le travail.
Je sais pas.
Et parfois redoutable avec vos comédiens dans la direction,
oui,
de comédiens. Ça, c'est clair, il y a eu des échos. Mais aussi, c'est vrai qu'en retour, il y a la qualité et le public a toujours des applaudissements très nourris envers vos spectacles.
C'est vrai.
C'est quand même un point d'orgue sur lequel...
Oui, puis il y a eu aussi le choix des pièces.
Alors justement, parlons-en.
Ben, le choix des pièces...
Parce que ce que j'ai remarqué, Jean-Pierre, c'est que toutes les pièces que nous avons vues sur Montpellier, qu'il s'agisse par exemple de Cyrano de Bergerac, Chez Mémé, Marie-Antoinette, Lily Marlène, etc., ce sont des spectacles que vous avez repris ou ce sont vraiment des créations...
Il y a deux choses. D'une part, il y a des pièces qui sont des reprises, c'est vrai, parce que j'ai un très lourd passé théâtral. J'ai quand même monté en tant qu'amateur aux alentours de 80 pièces. Donc, il y a énormément de choses.
Ah oui, c'est énorme.
Il y a énormément de choses que j'ai montées. Mmh. Ce n'est pas une pièce par an, c'est 2-3 par an. Mmh. Donc, si vous faites ça sur 30 ans, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'engagement.
Quoi. C'est énorme.
C'est énorme. Et puis, on jouait tout le temps. Dans le monde théâtre en question, on jouait tout le temps, comme à Corot. Comme à Beaux-Arts Tabar, on joue tout le temps, chaque semaine.
C'est quoi le lapsus, Corot, c'est...
Ben, c'était l'ancienne salle que j'avais.
À Paris,
oui. Ouais. Donc, on jouait autant. Et c'était extraordinaire parce qu'on était suivis tout le temps.
Ouais.
Il y a des gens qui ne vont au théâtre que parce qu'ils venaient chez nous. C'était aberrant, mais c'est comme ça.
Et Jean-Pierre, vous êtes toujours resté dans le monde amateur ou vous avez franchi la limite de...
J'ai franchi la limite, mais ça ne m'a pas intéressé.
D'accord. Parce que je crois savoir, ça, on me l'a rapporté, que quand vous étiez petit, ce n'était pas vraiment le théâtre qui vous intéressait. C'était de prendre la direction d'un cirque. Est-ce que c'est vrai, ça ? Ah, donc, c'est bien. C'est une bonne info, ça.
Ah bon ?
Eh bien oui, parce que moi, j'étais complètement surpris quand on m'a dit ça. On m'a dit que vous ambitionnez d'être directeur d'un cirque.
Ah ben ça, quand on est gamin, on est toujours directeur de quelque chose.
Et vos parents n'étaient pas chauds du tout, là.
Alors, mes parents, c'était l'indifférence totale.
Totale.
Absolue. C'est le seul reproche que je puisse leur faire, c'est l'indifférence.
Alors, l'indifférence à...
L'indifférence au fait qu'ils ne comprenaient rien à l'art, ils avaient des goûts, je ne dis pas le contraire. Mais disons qu'à l'art, c'est un peu comme une histoire, ils ne savaient pas entrer dans le sujet, c'est tout. Hein, la peinture,
c'était pas leur truc, quoi.
C'était pas leur truc.
Voilà.
Mon père, c'est le football.
Oui.
Ma mère, c'était la vie familiale.
Et vos enfants, est-ce qu'ils ont pris le relais ?
Relativement nul. Ah, ils sont toujours intéressés. Je les ai toujours trimballés aux répétitions, etc. etc.
Ouais.
Mais arrivé à l'âge adulte, bof, ils ont eu leur direction personnelle.
Aussi bien le garçon que la fille.
Autant le garçon que la fille.
D'accord.
Tout dépend évidemment de l'éducation qu'on leur donne, de la présence que l'on a à la maison, etc. etc. Il y a des tas de facteurs.
Donc, est-ce à dire que vos parents ne vous donnaient aucune éducation dans l'art? Et visiblement, c'est le cas. Et comment se fait-il? Comment vous expliquez que vous êtes devenu un amoureux aussi fervent du théâtre par transgression?
Il faut bien tomber amoureux de quelqu'un un jour, de quelque chose.
Non, c'est ses tantes qui l'ont... Hein, c'est
oui,
ça,
ben, c'est-à-dire que j'ai eu une influence artistique, mais attends, qui n'était une influence artistique style Troisième République. C'est-à-dire que l'on donnait à ces petites filles de la bourgeoisie, au fond, on leur prenait le piano, etc., etc., etc. Mais voilà, quoi, je veux dire par là que je suis passé par là, et passant par là, j'étais, par exemple, elles avaient de très belles voix. Donc,
qui vous tente.
Oui, donc j'ai été très influencé par l'art lyrique, très jeune. Faust, je connaissais par cœur, avec les espèces de disques. Je connaissais pas. Carmen, je connaissais par cœur, et je le connais toujours par cœur. Ça, c'est... etc. quoi. Mais ça, c'est la chance que l'on peut avoir parfois d'être dans un milieu qui vous donne sans que vous le demandiez.
Mais ça venait pas de vos parents, c'est ce que vous disiez.
Voilà, ça ne venait pas de mes parents. Même mon père, quand il est revenu de captivité, il devait se demander qu'est-ce que c'était que ce bonhomme qu'il découvrait à l'âge de 6 ans et qui ne s'intéressait absolument pas à ce qu'il faisait. Lui, c'était le football. Il était président de la Ligue du Sud-Est, donc c'était quelqu'un dans le football. Et quand il m'amenait au football, au Somme, à l'époque, on était dans la tribune d'honneur. Évidemment, vu que c'était le président de la Ligue Sud-Est, très rapidement, eh ben moi j'amenais mon bouquin et je tournais le dos au match. Pour mon père, je lui ai fait ça 2 fois, 3 fois, après c'est fini, il ne m'a plus amené.
C'était logique. Jean-Pierre, si on revient un petit peu sur l'époque de Paris,
oui.
Une époque assez riche, hein, puisque c'est
très là, riche.
Vaste, et faste aussi. Vous avez monté beaucoup de pièces de théâtre.
Oui.
Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment se fait-il que l'éducation nationale se soit tournée vers cet établissement dans lequel vous travaillez, parce que vous n'étiez pas le seul, je suppose, à donner des cours de théâtre.
Il y avait déjà une trace avant, effectivement, c'était un de mes collègues le faisait, il était très bien, très bien. Mais pourquoi moi ? Eh bien parce que, vous savez, ce n'est pas difficile. À partir du moment où vous commencez à être connu, les gens viennent à vous. Hein. Mm-hmm. Ils ne viennent pas à vous quand vous êtes inconnu. Moi, personnellement, je drainais 80, 100 personnes au point de vue comédien, au point de vue des gamins qui voulaient faire une personne qui voulait faire du théâtre. J'avais des adultes, j'avais des adolescents, j'avais etc., etc. Et puis les familles venaient, et puis voilà, ça s'enchaînait tout seul. Ça se faisait tout seul. Je n'ai jamais eu d'ennui sur le plan et de la fréquentation de mon théâtre et d'autre part des distributions, etc., etc. Je n'ai jamais eu d'ennui réel. D'accord. Ça s'est passé comme ça.
Naturellement. Mais alors, votre retour à Montpellier, c'était...
Là, il a fallu tout reconstruire.
Tout reconstruire.
Tout construire. Mais là aussi, j'ai été aidé. Je pense que chacun, hélas... qui, hélas, parce que ça ne me concerne pas, ça concerne beaucoup d'autres, chacun a un karma un petit peu différent, dans la mesure où moi je sais que personnellement, je ne sais pas si c'est sans forfanterie que je dis ça, je crois du moins, et je sais que personnellement j'attire des gens et je m'en sers. Pour le théâtre, ce matin, j'ai un homme qui est arrivé, hier j'ai le... Comment dirais-je ? J'ai Paulin, je vais monter Bérénice. J'ai Paulin qui, effectivement, est l'homme qui est à côté de Titus. Et hier, il me dit, Jean-Pierre, je ne le fais pas. Très bien. Ce matin, l'autre est arrivé et j'ai vu tout de suite Paulin. Je n'ai qu'à lui demander et je sais qu'il le fera.
Alors justement, parlons de la troupe de Vaudeschamps. La question vraiment qu'on a dû vous poser maintes et maintes fois, Vaudeschamps, c'est parce que ça vous rappelle peut-être l'Aveyron ?
Ah, pas du tout. Bon, c'est parce que j'écrivais des vaudevilles et que j'avais décidé que ma troupe s'appellerait la compagnie du vaudeville. Banal à souhait. Et puis un jour, au bout du second ou troisième vaudeville, je me suis dit à être appelé par des drames. Et on n'a joué que des drames, c'est simple. Par la suite, depuis 4 ou 5 ans, on joue que des drames ou bien des comédies musicales dramatiques. C'est la raison pour laquelle je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible d'appeler la compagnie de vaudeville. Donc on va l'appeler, j'ai cherché un nom, et c'est tout bête, excusez-moi. On va l'appeler la compagnie du Vaudeschamps, parce que le vaudeville et le Vaudeschamps...
Ah, s'oppose.
D'accord. Alors combien vous êtes dans cette troupe ? Comment ça se passe, Jean-Pierre, là ?
Une quinzaine.
Une quinzaine, vous avez un régisseur, vous avez un technicien, ou vraiment le monde met les mains dans le cambouis ? Comment ça se passe ?
Vous savez, les mains dans le cambouis...
Parce que là, vous êtes dans un théâtre, vous répétez, oui. Ils ont la chance, vos comédiens amateurs, de répéter dans un véritable...
Dans un véritable théâtre, c'est sûr, ça. Comment ça se passe ? Eh bien, oui, je peux dire que... On a des gens qui sont des techniciens, il nous manque un technicien lumière, ça c'est sûr et certain, mais on l'a quand même aussi. On a, comment ça s'appelle déjà, tu le connais certainement aussi, j'ai oublié son nom, mais parce que j'ai pas de mémoire. Alors bon, mais si, oui, on a une équipe technique, voilà. Ça c'est évident.
Et vous jouez toujours dans le théâtre ou vous sortez un petit peu ?
On sort aussi, il faut sortir.
Exactement.
Il faut sortir, ouais. Le théâtre amateur doit sortir pour faire connaître le théâtre à d'autres. Et puis d'autre part aussi, pour montrer la multiplicité de pièces qu'il y a, et qu'on doit engranger, disons, le plus de... Eh ben, tous les gens qui sont là, quoi, qui veulent venir et qui ont besoin, là aussi, de venir pour écouter du théâtre.
Et le rythme de croisière, c'est le même qu'à Paris, c'est-à-dire glouton de création
Non, pas du tout.
Ah.
Non, pas du tout, parce que j'ai voulu, ça c'est ma volonté, j'ai peut-être pas eu tout à fait eu raison, mélanger à la fois, j'ai toujours été gêné qu'on fasse une différence entre le théâtre amateur et le théâtre professionnel. J'ai toujours été gêné par ça. Alors ce que j'ai voulu, c'est effectivement avoir un théâtre dans lequel, effectivement, la moitié à peu près la moitié des représentations seraient données par des troupes professionnelles et l'autre moitié par des troupes amateurs. C'est ce qui se passe actuellement. Je croyais que je révolutionnerais les professionnels parce qu'après tout, je ne veux pas dire que je mange leur pain, mais un petit peu, quelque part, je mange leur pain. Alors, ils n'ont pas... Il s'agit qu'ils jouent. Après le reste,
et il s'agit qu'ils jouent. Jean-Pierre, est-ce qu'il y a une différence au niveau du public, par exemple? Est-ce qu'il y a plus de monde? Est-ce que c'est un public connaisseur lorsque ce sont bien sûr des professionnels? Comment ça se passe, là?
Disons que, premièrement, au niveau professionnel, je dois reconnaître que les gens viennent lorsqu'ils connaissent déjà. Lorsqu'il y a une troupe qui est déjà venue et qu'ils l'ont apprécié, ils vont revenir, ils retiennent le nom de la compagnie ou le nom des acteurs qui jouent. D'accord. D'autant plus que je fais en sorte de prendre des compagnies professionnelles qui sont de la région. Parce que, qu'on le veuille ou non, ces professionnels, ils ont besoin de vivre, ils en ont besoin d'être, etc., etc. C'est pas la peine. Et puis d'autre part aussi, faire venir des troupes de Lyon ou de Privas, ou etc., ça me coûte très cher. Donc, je l'ai fait deux ou trois fois. Mais bon, je ne le fais pas tout le temps. Et puis, il y a des gens qui sont excellents. Je ne lance pas les citer. Il y a des gens qui font des one-man shows, je dirais quasiment, qui sont vraiment excellents, qui sont des professionnels que je fais venir, ça, il n'y a pas de problème. Mais je ne dois pas me brancher dans l'absolu sur le one-man show. C'est évident. Ce n'est pas un théâtre, essentiellement, le one-man show. C'est un théâtre de comédien.
Alors, est-ce qu'on peut rappeler la jauge, par exemple? C'est un petit théâtre.
La jauge fait de 100 personnes. Mmh. 100 personnes, pas 200, hein. La jauge est de 100 personnes. En moyenne, je dois avoir 50 à 70 personnes.
C'est pas mal. Pour un théâtre privé, subventionné, c'est pas mal du tout.
Oui, on n'est pas subventionné. Je n'ai même pas demandé, d'ailleurs.
Revenons sur quelques-unes des pièces que vous avez... dont vous avez
dirigé, monté.
Merci Pierre. Vous disiez tout à l'heure qu'il y en a un certain nombre que vous avez monté en comédie musicale. Oui. La dernière en date que moi j'ai vue, en tout cas, il s'agit de Cyrano de Bergerac.
Oui.
Et puis là, vous avez le projet de monter Les Misérables, toujours adapté en comédie musicale. Je crois que la première sera très bientôt.
4, 5, 6 avril.
D'accord. Qu'est-ce qui vous pousse à transformer, d'une certaine manière, ces pièces classiques en comédie musicale?
Ma chère madame, ma réponse est très simple. C'est que j'ai été élevé dans un monde de musique.
C'est ce que vous nous disiez.
Où la musique faisait partie de la vie. Et même si ce n'est pas un truc extraordinaire, mais enfin, ça faisait partie de la vie. Le chant faisait partie de la vie. Les repas de famille se terminaient toujours par des explosions de chant. Ça a l'air de rien, ça, mais ça marque.
Ah oui.
Donc, personnellement, il était normal que lorsque j'envisage le théâtre, sur le plan de la musique. Actuellement, j'ai monté Britannicus, tout à fait dernièrement, on le redonne d'ailleurs le 1er février, et puis j'ai monté Bérénice. Pourquoi? Parce que la langue de Racine est une langue de musique. Sans mettre la musique derrière, les mots utilisés par Racine sont des mots de musique. Vous comprenez, d'accord? Bon. Et vous allez me dire, oui, mais la musique en est la même. Oui, mais la musique, on peut s'en passer en tant que telle. Si le texte s'alimente en musique de lui-même, ou bien encore, effectivement, pourquoi de la musique? Parce que, prenez le cas de Cyrano. Cyrano, c'est une pièce énorme. Elle dure 3h15. Injouable aujourd'hui. Je vous certifie que si vous essayez de jouer le premier acte de Cyrano, aujourd'hui, vous crèverez la patate et vous n'arriverez à rien. Or, aujourd'hui, on resserre davantage. D'abord, l'entracte a disparu. C'est bien la preuve qu'on resserre la représentation théâtrale. On la resserre sur 2h, 2h15 maximum.
C'est pas mal.
Un maximum. Ça signifie que si vous voulez donner Cyrano, il faut le transformer. Il faut le transformer, il faut en faire autre chose. Il faut certes se servir de tous les archétypes de Cyrano, c'est-à-dire le nez, c'est-à-dire le machin, le truc, etc., etc., mais également aussi, il faut tout le côté populaire qu'il y a dans Cyrano, il faut le rendre d'une autre façon. Et personnellement, moi j'étais habitué à l'Opéra Municipal de Montpellier, puisque mes parents m'avaient abonné, parce que comme le football ça ne m'allait pas et les scouts je détestais, donc on m'avait abonné à l'Opérette à Montpellier, Le dimanche après-midi.
C'est pas mal l'opérette, là.
La preuve.
La preuve, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, toutes les opérettes, la chaste Suzanne, la veuve joyeuse, le pays du sourire.
Oh, la veuve joyeuse, j'adore.
Etc. J'ai tout vu. J'ai tout vu quand j'étais petit. Mademoiselle Nitouche, j'ai tout vu. Et c'est resté. Donc, obligatoirement, je devais mettre la musique dans le texte.
Donc, dans le cas de Cyrano, c'est parce que vous dites que ça rappelle le côté populaire, c'est ça?
Oui, absolument. Cyrano est une pièce populaire.
Justement, Jean-Pierre, moi, je voudrais parler, parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'émission. Ça passe toujours très vite. Il y avait un festival, Jean-Pierre, que vous faisiez, le Festival des Cinq Bourgs, qui s'est transformé en Festival des Trois Bourgs. Dans l'Aveyron. Je reviens toujours dans l'Aveyron.
Ah oui, c'est vrai. Oui,
qu'est-ce qui devient ce festival? Racontez-moi un petit peu pourquoi un festival dans l'Aveyron et pourquoi cette idée est venue et où est-ce qu'on en est de ce petit festival?
Ben, on n'en est à rien.
Ah, c'est fini.
Oui, c'est fini parce que c'est très fatigant de l'organiser, parce que j'ai 80 ans et parce que je considère que maintenant, c'est fini parce que, à cause de ça. Parce que l'Aveyron, il faut y aller, c'est pas très loin, mais il faut quand même y aller. Il faut faire toutes les démarches possibles et imaginables. Vous savez autant que moi à quel point les démarches, c'est long. Il faut arriver à convaincre un public, il faut arriver à le faire venir, etc.
C'était une bonne expérience ou...
C'était une excellente expérience. Mais comme toute expérience, parfois, elle débouche sur le fait qu'il
y a pas de relais.
Il faut être sage pour s'arrêter, puis il n'y a pas de relais aussi.
Voilà, d'accord.
Donc, prochaine pièce, là, c'est Les Misérables, vous l'avez dit, en comédie musicale. Donc là, j'imagine, Les Misérables, ça demande donc une adaptation, puisque à la base, c'est un roman.
On fait que la première partie, quand Valjean s'empare de Cosette et là, lui fera faire une autre vie à Paris.
Et en ce qui concerne la partie musicale, donc là, c'est vous qui avez...
Oh, la partie musicale existe depuis longtemps, parce que j'ai toujours travaillé avec des musiciens. Alain Ferral, je ne sais pas si vous connaissez, Mianet, etc. Ce sont des gens qui ont toujours composé pour moi. Donc, Les Misérables ont déjà été joués en région parisienne, il y a 30 ans.
Mise en scène par vous.
Mise en scène par moi. et également musique de Mianet.
Combien il y a de personnages là dans cette...
Dans la troupe.
Dans la pièce.
Oh, ils ne sont pas très nombreux. Il y a Thénardier, il y a Valjean, il y a Fantine, il y a Cosette. Ils sont 7 à 8 personnages.
Ah oui,
d'accord. Javert, etc., etc.
Parce que Jean-Pierre, vous nous avez habitués à des pièces.
Ah oui, mais
il y a une grosse équipe.
Il y a une grosse équipe peut-être, mais on ne peut pas demander. Moi, je considère que quand les 15, je les ai toutes les semaines, deux fois par semaine, c'est beaucoup.
C'est beaucoup.
Hein, je ne peux pas demander, mais il y a 14 heures.
Non, c'est sûr.
Bien, notre émission se termine. Jean-Pierre, j'aimerais que l'on rappelle l'adresse de votre théâtre à Montpellier, donc qui s'appelle aujourd'hui, vous l'avez dit, Beaux-Arts Tabar,
au 17 rue Ferdinand Fabre.
Si on veut s'y rendre, il vaut mieux réserver à l'avance?
Oui, à mon avis, oui. D'autant plus que tout y est pour réserver, hein, d'accord? Il y a quelqu'un qui répond, etc., etc.
Ok, donc l'adresse de votre site internet?
Oh là là, voilà comme on le demande, je suis incapable de le dire.
Ok, donc on tape simplement Théâtre Beaux-Arts
voilà,
Tabar
et
on
tout.
Aura tout dessus et on pourra prendre les places à l'avance.
Voilà.
Merci Jean-Pierre Albe, merci Cathy.
Merci et chers auditeurs.
Auditeurs, oui.
À la prochaine.
À la prochaine, bye.
Au revoir.
Du théâtre à tous les coins. Mmh.